Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour à tous. Le sentiment d'une Europe à reconstruire, c'est la tonalité qui domine ce matin, alors que l'Union européenne comme le Royaume-Uni ne semblent pas savoir comment concrétiser dans les faits ce Brexit que personne n'a voulu voir venir. Un Brexit qui pour l'instant est surtout synonyme de crise politique en Grande-Bretagne. Nous irons à Londres avec notre envoyée spéciale Catherine Dutu.
Et à Berlin, les chefs d'État français, allemands et italiens vont se rencontrer cet après-midi pour aligner leurs positions sur le sujet. Pendant ce temps-là, à Bruxelles, on se demande quelle nouvelle base pour une Europe sans le Royaume-Uni, nous dira Bruno Cadenne.
Nous irons également à Madrid pour analyser le résultat des élections législatives 6 mois après un scrutin qui n'a rien donné. C'est le PP conservateur de Mariano Rajoy qui sort grand vainqueur, seul parti à gagner des sièges. Analyse à venir de notre envoyée spéciale Annabelle Grelier.
Enfin, autre scrutin très médiatisé, celui de Notre-Dame-des-Landes. Les habitants de Loire-Atlantique ont voté oui à plus de 55% pour le transfert du nouvel aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes.
Enfin, quel sera le profil du nouveau Canal+ ? On devrait le savoir aujourd'hui, nous dira Abdelhak El Idrissi. Déboussolé, déchiré, tétanisé, les adjectifs ne manquent pas dans les titres des journaux pour décrire ce matin l'état de sidération dans lequel est plongée la classe politique anglaise après le Brexit. Une classe politique qui pour l'instant se demande qui va succéder à David Cameron pendant qu'une partie des votants réclame un nouveau référendum. On va y revenir. Que va-t-il se passer maintenant? Comment engager la procédure de divorce avec Bruxelles? Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale à Londres et ce matin la presse britannique fait ses unes sur la révolte qui gronde contre Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste.
Corbyn face à un ultimatum, titre le Times, son shadow cabinet, son cabinet fantôme, se désintègre, constate le Guardian. Après le limogeage du responsable travailliste des affaires étrangères et la démission ensuite d'une dizaine de membres du gouvernement d'opposition, en charge par exemple de la santé, de l'éducation, des transports, de l'Écosse, tous disent ne plus avoir confiance en Jeremy Corbyn, le leader travailliste accusé d'avoir défendu l'Union européenne du bout des lèvres seulement pendant la campagne référendaire. Et de ce côté-ci de la Manche, les frondeurs sont des caciques du parti. Ils n'apprécient pas le profil trop à gauche de leur leader, europhile peu convaincu. Jeremy Corbyn s'accroche pour l'instant. Pas question de démissionner, a-t-il indiqué hier soir, fort d'une pétition de soutien signée pour l'instant par plus de 100 000 personnes. Rappelons que Jeremy Corbyn avait été largement plébiscité par la base travailliste l'été dernier. Autre turbulence, cette fois chez les conservateurs, depuis que le premier ministre David Cameron, engagé en faveur du maintien dans l'UE, a annoncé qu'il démissionnerait en octobre prochain, contre-offensive de ses alliés. Leur objectif, barrer la route du 10 Downing Street à Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, plus connu pour ses sorties choquantes que pour sa stature d'homme d'État. En coulisses, les alliés de Cameron miseraient plus sur Theresa May, ministre de l'Intérieur, jugée plus consensuelle, Anne-Laure.
Alors on le disait, une partie des votants de leur côté réclame un nouveau référendum, une pétition a recueilli des millions de signatures.
3,5 millions de signatures recueillies à 7h, des Britanniques qui regrettent déjà d'avoir voté en faveur du Leave, mais surtout de nombreux partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Sur la carte indiquant l'origine des signataires, on retrouve certaines tendances de vote pour le référendum. La pétition est signée en grande majorité par des jeunes qui habitent dans la région de Londres. Cécilia, une Espagnole de 34 ans, fait partie des signataires.
Ça fait 7 ans que je vis ici. Je paie des impôts et on ne me considère pas comme une citoyenne à part entière. C'est déjà une bonne raison. Et puis je travaille dans la finance et dès vendredi, juste après l'annonce de la démission de Cameron, 200 de mes collègues qui travaillent actuellement à Londres ont appris que leur poste allait être transféré vers un autre siège social. 200 personnes qui vont devoir vivre ailleurs, sans le vouloir vraiment, pour des raisons familiales ou personnelles. Et ce n'est qu'une seule entreprise, qu'une banque.
Mais les chances de revenir sur le référendum sont plus que minces. Certes, au Royaume-Uni, toute pétition qui rassemble plus de 100 000 signatures peut être soumise à un débat au Parlement sur demande du comité responsable des pétitions en ligne. Une possibilité donc, mais pas d'obligation.
Catherine Dutu, en direct depuis Londres, merci beaucoup. La confusion règne également à l'échelle européenne. À Bruxelles, on se demande si référendum après référendum, l'Union n'est pas destinée à mourir à petit feu. Faut-il relancer le couple franco-allemand qui a a du plomb dans l'aile? Faut-il rompre rapidement avec la Grande-Bretagne et se recentrer sur un noyau dur européen? Faut-il renforcer le pouvoir du Parlement? Autant de questions qui se posent aujourd'hui donc à Bruxelles, où se trouve notre envoyé spécial Bruno Cadenne.
C'est le paradoxe de Bruxelles. Le Brexit a fortement réveillé les pro-européens. Ils souhaitent que l'UE se transforme enfin. Philippe Cordery, député PS des Français du Benelux.
Le problème de l'Europe aujourd'hui, la raison pour laquelle elle est rejetée, c'est essentiellement parce qu'elle n'est pas achevée. Parce qu'on ne peut pas avoir un espace Schengen sans contrôle extérieur des frontières. On ne peut pas avoir un espace Schengen sans politique d'asile commune. On ne peut pas avoir une zone euro sans politique fiscale coordonnée, sans politique salariale convergente. Donc tout ça, ça doit être mis en place. On ne peut plus attendre. Et il faut que cette initiative, elle soit forte. Et il faut que l'Europe, elle soit assumée aussi. Parce que c'est pas que les citoyens ne veulent pas de l'Europe. Elles ne veulent plus de cette Europe telle qu'elle est. Moi, je dis que si on doit avoir un triple A pour l'Europe, ça doit être une Europe achevée, une Europe assumée et une Europe avec une avant-garde.
Une relance de l'Europe qui pourrait se faire autour de la zone euro, une Europe à deux vitesses, donc Charles de Marcilly de la Fondation Schuman à Bruxelles.
En pratique, il y a déjà plusieurs vitesses. Alors, chacun veut accélérer à son rythme, mais on voit qu'il y a une vitesse pour ceux qui partagent la monnaie commune, parce que vous partagez aussi la responsabilité, la solidarité. Donc ça s'est vu notamment pour la Grèce, mais ça s'est vu aussi pour le Portugal, on peut citer l'Irlande. Donc là, vous avez une réelle solidarité qui s'effectue à travers les membres de ce club de la zone euro et puis un groupe un peu plus large de l'Union européenne. La plupart ont vocation aussi à joindre la zone euro. Et là, on s'aperçoit qu'il y a certains États, notamment de l'Est de l'Europe, qui repoussent un petit peu cet objectif. Et donc ça pose la question réelle de quel système d'intégration on peut avoir. Qui est-ce qui veut partager ce projet commun? Et là, c'est la zone euro qui serait ce moteur, ou alors une intégration un peu plus large. Et ça pose la question de l'union politique.
Et pour cela, tous les regards sont tournés vers le couple franco-allemand pour sauver l'Europe.
Alors ce lundi débute une série de réunions où toutes ces questions seront abordées, cet après-midi à Berlin notamment, où doivent se retrouver François Hollande et Angela Merkel avec le président du Conseil italien Matteo Renzi qui dit lui souhaiter une rupture rapide avec la Grande-Bretagne, une position partagée par le président français. Or, malgré les déclarations publiques communes, ça n'est pas la position de la chancelière allemande qui souhaite, elle, une transition en douceur. Et puis, il y a les conséquences du Brexit sur l'économie notamment, et il est un secteur qui devrait beaucoup perdre de la sortie de l'Union, c'est celui de l'agriculture britannique. Comme la France, les agriculteurs du Royaume-Uni sont très dépendants des aides de la PAC, notamment Philippe Lefebvre.
Pour les agriculteurs britanniques, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, car dans le futur, ils vont devoir faire sans les 3,5 milliards d'euros d'aides européennes accordées chaque année au titre de la politique agricole commune et dont la majeure partie, 86%, était versée directement aux exploitants des 185 000 fermes du Royaume. Autre problème, et de taille, par le jeu des futures taxes à l'entrée dans l'Union européenne, eh bien, les produits alimentaires britanniques coûteront probablement plus cher et donc seront moins intéressants pour les consommateurs européens, et cela freinera encore plus les exportations britanniques. Donc avec une agriculture forcément fragilisée, eh bien le pays devra, selon toute vraisemblance, augmenter le niveau de ses importations dans plusieurs secteurs, les céréales, les produits laitiers et les fruits et légumes en conserve. Alors bien entendu, la Grande-Bretagne pourra se tourner vers ses autres partenaires historiques, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, mais pour des questions de proximité et de coûts de transport, elle ne pourra se passer des produits de l'Union européenne, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les agriculteurs européens.
Le Brexit et ses conséquences, nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions et à 12h30 notamment avec l'invité de la rédaction Michel Barnier, conseiller spécial du président de la Commission européenne.
Et avec nos invités des matins, les deux philosophes Jacques Rancière et Vincent Descombes, il est 8h09 sur France Culture, la suite du journal Anne Lorchouin.
Plus tenace qu'on ne le pensait, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy est finalement sorti renforcé des élections législatives espagnoles. 6 mois après un premier scrutin qui n'avait pas permis de former un nouveau gouvernement, le PP, le Partido Popular, est le seul parti politique qui a gagné des voix entre les deux élections. Mais avec 137 sièges, il reste en deçà de la majorité absolue. Les autres formations perdent des électeurs, notamment Podemos, le parti des ex-indignés. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Anne-Laure.
Vous êtes notre envoyée spéciale à Madrid. Peut-on dire, Annabelle, que ce nouveau scrutin a rebattu les cartes?
Si la droite progresse, ce nouveau scrutin n'en a pas pour autant fait émerger une nouvelle donne au Parlement. Les conservateurs, qui n'ont pas de majorité absolue, doivent désormais négocier les termes d'une alliance qui leur permettra de rester au pouvoir. Ils se tourneront naturellement vers le libéral, Ciudadanos, dont le chef Albert Rivera a annoncé qu'il était prêt à commencer ces discussions. Mais ils devront au moins compter aussi sur l'abstention des socialistes, car le PP et Ciudadanos n'en ont pas à eux deux la majorité absolue requise. La nouvelle formation, Ciudadanos, a reculé, ne recueillant que 32 sièges, loin des 40 remportés en décembre, quand il avait séduit les électeurs du PP en dénonçant la corruption. Alors plusieurs formules sont donc envisageables. Une alliance PP-Ciudadanos, on vient de le voir, ou alors une grande coalition à l'allemande entre le parti de Rajoy et le PSOE, qui est aujourd'hui difficilement envisageable, ou bien un gouvernement minoritaire de la droite, une position très fragile et difficilement tenable. Devant l'urgence qu'a créé le Brexit, tous les partis ont promis de tout faire pour éviter un troisième tour, bref, de nouvelles élections. Mariano Rajoy doit participer au Conseil européen sur le sujet cette semaine et a déjà promis de définir une position commune avec les autres partis. Après 6 mois de paralysie politique de l'Espagne, le jeu des alliances devrait aller plus vite cette fois. Le nouveau Parlement, issu des législatives, est appelé à siéger à partir du 19 juillet.
Annabelle Grelier, merci. Autre scrutin en France, celui-là qui marque peut-être l'issue définitive d'un dossier vieux de plus de 50 ans. C'est ce que veut croire l'exécutif, en tout cas, après le résultat du référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Hier, c'est le oui qui l'a emporté avec 55,17% des voix. Une consultation qui n'avait valeur que d'avis, mais que devrait suivre le gouvernement, en tout cas il l'a promis. Véronique Rebérod, vous êtes en direct depuis Nantes. Tous les résultats sont tombés tard hier soir.
Oui, 22h, les résultats définitifs tombent. Ceux de Nantes tombent en dernier et surprennent. Le oui l'emporte de 100 voix seulement. La maire de Nantes préfère de loin le résultat global. Vous l'avez dit, un peu plus de 55% de oui. Johanna Roland appelle au respect de la démocratie.
C'est donc un choix en clarté, tant au niveau de la participation qu'au niveau du choix des électeurs et des électrices. Moi, j'appelle maintenant ce soir, évidemment, chacune et chacun à respecter en sérénité, dans ce qui me semble être le béaba de la démocratie, le choix des électeurs qui s'est exprimé ce soir.
Sur la ZAD, comme prévu, on ne reconnaît aucune légitimité à ce, je cite, petit sondage trop local. Pas question de quitter la zone du futur aéroport. L'État qui promet une évacuation d'ici l'automne n'aura pas plus de réussite aujourd'hui qu'hier, promet Camille, un zadiste.
Ce qui est important, c'est de dire que l'aéroport se fera pas. Nous, on est des occupants et des occupants de la ZAD, et puis on va rester là. Ça fait des années qu'on se projette pour rester sur ce territoire. On habite ce lieu, on le fait vivre et on lutte ici. Il y a plus de 200 comités de soutien partout en France qui sont prêts à déployer une mobilisation en cas d'expulsion ou démarrage des travaux. En 2012, c'était une des forces qui a fait que l'opération César a lamentablement échoué et qui fera qu'une prochaine opération d'expulsion échouera de la même manière.
L'État le sait, évacuer et protéger la zone du futur aéroport nécessitera des moyens considérables et ce pendant des mois. Le bon courage de Ségolène Royal à Manuel Valls n'a jamais été autant d'actualité.
Véronique Rebérod, merci. Fallujah, enfin libérée. La première ville irakienne tombée entre les mains du groupe État islamique en 2014 a été reprise par les forces armées irakiennes après des combats de plus d'un mois et le départ en masse de 85 000 civils. Le premier ministre irakien s'en est félicité hier. Il annonce mettre le cap sur Mossoul, dernière place forte de Daesh en Irak. À quoi ressemblera le Canal Plus de demain? Visiblement pas à celui d'hier. L'année qui vient de s'écouler en a fourni la preuve. Démission et départ en cascade. La transition a été rude pour le groupe sous la direction de Vincent Bolloré, le nouveau propriétaire, qui devrait donc dévoiler aujourd'hui ce que seront les nouvelles chaînes du groupe Vivendi, à commencer donc par Canal Plus, qui va devoir trouver une nouvelle identité. Les précisions d'Abdellah Kaledrissi.
Le fameux esprit Canal n'aura pas résisté longtemps à la méthode Bolloré. Il y a un an, Vincent Bolloré prenait la tête du conseil de surveillance du groupe. Son objectif, mettre un terme à l'autonomie et au statut à part dont bénéficiait Canal Plus au sein du groupe. Une anomalie pour l'entrepreneur breton qui a justement souhaité placer Canal dans une logique de groupe, aux côtés et en partenariat avec les autres entreprises de Vivendi comme Dailymotion et Universal Music. Et la méthode employée n'a pas été douce. En cette fin de saison, on a appris le départ de la quasi-totalité des grands noms de Canal+. Yann Barthès s'en va, même si le concept de petit journal reste. Maïté Nabirabin, Brice Toussaint, Ali Badou, Grégoire Margoton disparaissent également, ou quasiment, les émissions phares, les Guignols et le Zapping notamment. Mais c'est plus globalement avec les émissions en clair que Vincent Bolloré a voulu en finir. Pour lui, ces créneaux accessibles à tous sont une hérésie au sein d'une chaîne cryptée. Il faut que l'abonné se sente privilégié. Et ça passe notamment par des contenus exclusifs, à savoir le cinéma et le sport. Même si sur ce dernier terrain, Canal+ est attaqué de toutes parts. Et la récente interdiction faite à la chaîne de signer un accord exclusif avec beIN Sports ne va pas aider. Un an après son arrivée, Vincent Bolloré aura sans doute l'impression d'avoir remis de l'ordre à Canal. C'est pour ça qu'il a annoncé qu'il en quittait la présidence. Du côté des salariés, on a surtout l'impression d'avoir fait face à une entreprise de démolition.
Abdelhak El Idrissi, un dernier mot rapide du temps de ce lundi. Gris au nord, beau au sud pour les températures au plus chaud de la journée. Comptez de 18 degrés à 28 degrés du nord au sud.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Il est 8h15 sur France Culture.